toi, ô mon frère. Salut à toi, peuple Khmer. Salut à toi, l'Algérie.
Et salut à vous, les auditeurs de Radio Galère. Les salut. Informations hebdomadaires avec Eric.
Oui, salut Jacques, salut tout le
monde. Je te remercie de me remercier, c'est gentil.
Ouais. Te remercier. Bon, salut à vous tous. On vous remercie, les auditeurs, de nous être à l'écoute. Vous c'est allez ça, nous ouais. subir jusqu'à 14h.
C'est ça, oui.
Avant l'émission Handicap qui va avoir lieu juste après. Alors, bon, bah, écoutez, on va parler. Et l'édito d'aujourd'hui, écoutez, je ne vais pas me
fouler. Tu ne vas pas, si, si. Pas te fouler
non. Voilà, j'ai trouvé un appel à la résistance de Bernie Sanders. Mmh. On est toujours encore sur les États-Unis, hélas, mais enfin, bon, vu que Trump occupe les médias, oui. Surtout aux États-Unis, carrément, il y a 99% de Trump dans les médias américains. Nous, on a un peu moins, mais enfin, ouais. C'est vrai que bon, ben, Trump se comporte comme un véritable monarque de droit divin. Voilà. D'ailleurs, c'est une allusion à la chronique d'Olivier Morel d'aujourd'hui. Mais je vais revenir à l'appel de Bernie Sanders. Alors, Bernie Sanders, pour ceux qui ne savent pas, c'est un démocrate, c'est l'aile gauche du Parti démocrate.
Un vieux démocrate
qui s'est présenté contre Clinton en primaire, donc contre Hillary Clinton. Après, il ne s'est pas présenté vis-à-vis de Bernie face à Donald Trump. Bernie Sanders, et là, c'est un vieux sénateur, un vieux élu démocrate. Bon, ceci dit, il y a quand même quelques relais après lui, mais il ne prend pas pour autant sa retraite. Hein.
Oui, non, il est toujours assez écouté quand même.
Oui, dans les milieux progressistes des États-Unis.
Donc c'est la gauche du Parti démocrate.
Pour l'équivalent un peu du Parti communiste, disons.
Oui, non, moi j'irais plutôt la gauche du Parti socialiste.
La gauche du Parti socialiste encore que le Parti communiste français.
Oui.
Bernie Sanders, c'est la gauche du Parti démocrate. Et il dit, je ne remercie pas souvent Elon Musk, mais il a fait un travail remarquable en montrant ce que nous soutenons depuis des années. Et le fait que nous vivons dans une société oligarchique où les milliardaires dominent non seulement notre politique et les informations que nous consommons, mais aussi notre gouvernement et notre économie. Cela n'a jamais été aussi clair qu'aujourd'hui. Que veulent vraiment lui et les autres multimilliardaires? Quel est leur enjeu final? Les classes dirigeantes tout au long de l'histoire ont toujours voulu et considéré comme leur appartenant de droit. Plus de pouvoir, plus de contrôle, plus de richesse. Et ils ne veulent pas que les gens ordinaires et la démocratie se mettent en travers de leur chemin. Elon Musk et ses collègues oligarques estiment que le gouvernement et les lois ne sont qu'un obstacle à leur intérêt et à ce à quoi ils ont droit. Les oligarques croient en tant que maître de la technologie et en tant que personne à QI élevé, ils ont le droit absolu de gouverner. En d'autres termes, ils sont nos rois modernes. Et ce n'est pas seulement une question de force, c'est une richesse incroyable. Aujourd'hui, Musk, Bezos et Zuckerberg possèdent une richesse combinée à de 903 milliards de dollars. Depuis l'élection de Trump, leurs enjeux ont grimpé en flèche. Elon Musk est plus riche de 138 milliards de dollars, Zuckerberg de 49 milliards de dollars et Bezos de 28 milliards de dollars. Si l'on additionne tout cela, les trois personnes les plus riches d'Amérique sont 215 milliards de dollars plus riches que celui du jour de l'élection. Or, 60% des Américains vivent d'un chèque de paie, alors 85 millions ne sont pas assurés et sous-assurés. 800 000 sont sans abri et nous avons un taux de pauvreté infantile le plus élevé de presque toutes les grandes nations du monde. Pensez-vous que les oligarques devraient cracher sur ces gens-là? La décision d'Elon Musk de dissoudre l'Agence américaine pour le développement international signifie que des milliers de personnes parmi les plus pauvres du monde mourront de faim ou de maladies inévitables. Mais ce n'est pas seulement à l'étranger. Ici, aux États-Unis, ils prendront bientôt en charge des programmes de santé, de nutrition, de logement et d'éducation qui protègent les plus vulnérables de notre pays. Comme les rois d'aujourd'hui, ils croient avoir le droit absolu de régner, ils n'hésiteront pas à sacrifier le bien-être des travailleurs pour protéger leurs privilèges. De plus, ils utiliseront les grandes opérations médiatiques qu'ils possèdent pour attirer l'attention sur l'impact de leur politique, tout en nous divertissant à mort. Ils mentiront, ils mentiront, ils mentiront. Ils sèment une guerre contre les classes de travailleurs de ce pays et ils ont l'intention de gagner cette guerre. Voilà ce qui déclare c'est vrai que divertir ça rappelle un peu des propos d'Orwell sur 1984.
Oui, ça rappelle aussi Debord, hein, dans la société du spectacle.
Entre autres.
Je veux dire, le vrai est un moment du faux.
Bon, voilà, n'est-ce pas? Bon.
Alors, en parlant de ça, on va parler de la légalisation du cannabis. Et il semblerait que la coalition gouvernementale peine à trouver sa ligne.
Tu veux le taf, Jacques?
Ah, merci. il est bon. Alors, le 1er novembre, au lendemain de la fusillade à Poitiers qui a tué un jeune de 15 ans, Bruno Retailleau avait préparé de bonne heure la petite phrase choc pour les caméras. La France est en voie de mexicanisation, avait lancé le très droitier ministre de l'Intérieur. L'ancien sénateur LR avait évoqué une rixe entre bandes rivales, rassemblant pas moins de 400 à 600 personnes et fusillade des narco-racailles. Versailles. Mais le procureur de la République de Poitiers avait dû le contredire, ruinant sa communication presque rodée. Le magistrat a pour sa part recensé une soixantaine de personnes présentes sur les lieux du drame. Selon l'avocate de la famille, le mineur tué, lui, n'avait aucun problème de délinquance. Au-delà du désaccord sur le terme employé, il n'y a pas de position commune non plus au sein de la Macronie et de ses alliés sur le sujet plus vaste qu'est la lutte contre le trafic de drogue. Figure de la ligne autoritaire du gouvernement, Retailleau pousse pour un durcissement de la politique anti-drogue. Dans la même veine que Gérald Darmanin, qui avait lancé l'opération PlaceNet XXL, des descentes de police contre des trafiquants dans plusieurs villes de France, accompagnées d'une surmédiatisation, le ministre de l'Intérieur actuel souhaite renforcer l'arsenal législatif contre le trafic de stupéfiants, comme la création d'un parquet national spécialisé. Dans son viseur également, les consommateurs. S'il ne s'est pas exprimé sur le sujet depuis son entrée au gouvernement, le ministre des Sports, Gilles Averroux, un républicain, est un fervent défenseur de la légalisation du cannabis. Et oui, Averroux, en 2023, poussait dans ce sens dans une tribune parue dans le JDD, aux côtés de deux autres maires de son parti d'alors, Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières, et Arnaud Robinet, lui, donc maire de Reims, jugeant même cette légalisation indispensable. En 2023, Gilles Averroux, qui était le maire de Châteauroux dans l'Indre, était d'ailleurs candidat pour expérimenter une filière locale de légalisation dans sa ville. Même désaccord à l'Assemblée nationale. Dès 2021, quatre députés macronistes, dont Ludovic Mendes, avaient rédigé un rapport d'information sur la réglementation et l'impact des différents usages du cannabis. L'élu de Moselle ne compte pas s'arrêter là. Il réfléchit déjà à une proposition de loi pour légaliser le cannabis récréatif et médical. Quand on regarde dans le détail des études scientifiques, quand on sort du dogme politique, le cannabis est moins dangereux que l'alcool et le tabac, justifie le député pour qui la frilosité de son camp à ouvrir le débat est un problème de courage. Selon Ludovic Mendes, il s'agirait pourtant d'une des réponses possibles à apporter aux problèmes sécuritaires posés par le trafic de drogue. Environ 50% du trafic, c'est du cannabis. En légalisant, on reprend le contrôle et on pourrait avoir plus de moyens pour lutter contre les réseaux, martèle le député. Les jeunes avec Macron, eux, ont pris leur indépendance sur le sujet. C'est ce qu'on fait actuellement, ne fonctionne pas, reconnaît le président des JAM, Ambroise Méjean. L'objectif de la légalisation est de casser le marché noir et de protéger les consommateurs, comme quoi hein.
Oui, Dandy, le problème, c'est surtout qu'on fait un grand débat sur la consommation de drogue, mais le problème, c'est pourquoi des gens consomment de la drogue, de l'alcool, des tranquillisants, des
anxiolytiques. C'est qu'ils sont vraiment dans une société qui fait tout pour les combler, dans laquelle ils se sentent tout à fait à l'aise et heureux, quoi, bien sûr.
C'est la société de consommation.
Oui,
je consomme, donc j'existe.
Entre autres, mais
voilà, je ne peux pas consommer, donc je suis mort.
Bon, mais c'est aussi avec tous les tranquillisants, antidépresseurs et tout ça, c'est dans un monde qui est effectivement très... disons qui arrive donc à favoriser la dépression, qui arrive à favoriser les addictions, parce que vous êtes chauffeur routier qu'on vous demande de conduire 70 heures par semaine, c'est difficile de le faire uniquement en buvant du café, par exemple.
Voilà, donc il faudrait peut-être réfléchir là-dessus, que parler d'interdiction qui est maintenant profite aux trafiquants. D'ailleurs, Al Capone était pour l'interdiction de la vente d'alcool.
Ah ben oui, ça a fait sa fortune, c'est vrai.
On va parler d'un thème récurrent qui est dans la série Le délire identitaire, être français.
Oui, oh ben ça va. Bon.
Voilà. Alors, on va aller.
Êtes-vous plus français que lui, ça me rappelle quelque chose.
C'est oui, Zemmour. Zemmour, excusez-moi du lapsus. Alors, être français, ça ne peut pas être par hasard de la naissance. Être français, c'est une volonté. C'est Gérard Darmanin qui sort cette phrase.
Darmanin,
oui. Alors, évidemment, c'est le retour à la loi Méhaignerie qui, entre 93 et 98, imposait une manifestation de volonté aux enfants d'étrangers nés en France pour qu'ils acquièrent la société à leur majorité. Une loi qui avait été supprimée par Jospin en 98. Alors, chaque année, 30 000 jeunes deviennent français par le droit du sol, selon lequel un enfant né en France de deux parents étrangers devient français à sa majorité ou de façon anticipée à partir de 13 ans, à condition d'avoir resté en France au moins 5 ans depuis ses 11 ans. Les prises de position du ministre LR ne sont pas nouvelles. Lors de la campagne présidentielle de 2022, le parti défendait la fin du droit du sol automatique et son conditionnement à des preuves d'assimilation, tests de français notamment. Et pourtant, la dernière restriction du droit de sol à Mayotte, décidée en 2018, n'a aucunement jugulé le flux des migrants irréguliers. Les naissances ont augmenté alors que les acquisitions de la société ont drastiquement chuté. L'attractivité de Mayotte s'explique bien davantage par des écarts de niveau de vie avec le reste des Comores ou la qualité du système sanitaire français. En fait, c'est un peu tout la pauvreté qui pousse les gens à émigrer vers les pays riches. Et
c'est incroyable. je suis étonné.
Voilà. Alors, s'attaquer au droit du sol et sur le reste du territoire n'aura pas davantage d'incidence. Et c'est ce que dit l'historien Patrick Veil. Ça n'a aucun sens. La région de ce débat permet en tout cas à l'extrême droite de plaider une suppression totale du droit de sol. Être français, ça se mérite ou ça s'irrite, redit le putain de tennis Yoann Gillet. Et dans son programme en 2022, Marine Le Pen promettait que la transmission de la nationalité française serait pour l'essentiel possible que par filiation. Alors ce que dit Patrick Veil, c'est ce qui appelle à une suppression du droit de sol révèle une tradition de l'action française. C'est le fond de cuve de l'extrême droite depuis la fin du 19e siècle, qui appelait métèques ou français de papier ceux qui avaient bénéficié de ce droit du sol.
Bah oui.
On rappelle ces petits discours sur le Vichy.
Ah oui, non, bon, ça va. Voilà. Êtes-vous plus français que lui donc.
Voilà, alors l'historien Emmanuel Blanchard, lui, dit « De très longue date, le droit de nationalité a été un vecteur d'affrontement lié à des conceptions différentes de la nation et de la République. Il y a des perspectives ethno-culturelles et d'autres avant tout juridiques. » Il faut savoir qu'il y a plusieurs lois de notre nationalité qui ont été faites en 1851, 1889 et 1927. De même, le régime de Vichy n'a pas remis en cause le droit du sol, sauf pour les Juifs.
Tiens, voilà, étonnant, non ?
D'Europe centrale. Par contre, il faut préciser, et c'est ce que dit Blanchard, le socle, c'est 1889. C'est un texte républicain, nationaliste et patriote. Il vise à renforcer la nation française en faisant en sorte que l'État ait une emprise sur les étrangers. Mm-hmm. L'idée était d'empêcher que se constituent des communautés d'étrangers, italiens notamment, des colonies, entre guillemets, comme on disait sur la Troisième République, et que cela pose un problème de loyauté envers la France. Il fallait aussi ouvrir largement la nationalité afin d'ouvrir à la France de nouveaux soldats. Donc l'idée de faire le droit du sol, c'était aussi pour rentrer une cohésion nationale.
Ah, d'accord.
Voilà, et ça, il ne faut pas oublier. Alors, c'est vrai qu'en propos des immigrés italiens, vous savez qu'il y a une brochure qui s'appelle « La province italienne », publiée en 1903.
Oui,
l'invasion des Italiens qui sont à la fois des délinquants, à la fois des travailleurs français et un complot. Ça ne rappelle pas quelqu'un qui parle du complot du grand remplacement ?
Oui, non, mais c'est une vieille tradition en France.
On recycle les mêmes discours, à part qu'on remplace le mot italien par autre chose.
Bah, ça dépend de l'immigré du moment, quoi.
Oui, c'est vrai que Bardella est plus français que français.
Oui, par exemple. Alors, bah, tu connais Cogolin ?
Cogolin, oui, c'était une commune dans le Var. Voilà, oui, je crois qu'il y a un maire plutôt RN, non ?
Non, puis plutôt zémouriste, en fait.
Ah oui, donc devenu zémouriste.
Oui, il s'appelle M. Lansade. Alors, 10 ans à surveiller le maire d'extrême droite, scruter ses ambitions et ses décisions litigieuses, l'association Place Publique de Cogolin a été d'ailleurs créée pour cela en 2014, quand l'ancien agent immobilier biberonné au Lavallois des Balkany a ravi la mairie, et aussi pour recréer du lien entre les habitants. Depuis, le maire Marc-Étienne Lansade a été mis en examen 11 fois pour favoritisme, prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics. Il est témoin assisté dans un dossier pour faux et usage de faux. On complète le tableau. Lansade est un ancien du Front National, un fan de Marion Maréchal, passé chez Éric Zemmour et il était sur la liste Reconquête aux Européennes de 2024.
D'accord, oui.
Alors, ce monsieur Lansade, en septembre, il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis et 3 ans de privation de droits civiques et donc l'inéligibilité dans une affaire d'abus de faiblesse. Sans exécution provisoire, il a pu tout de même garder son mandat. Alors, ce monsieur, en 2020, il avait fait signer à un ami une procuration pour valider une vente immobilière dans la ville. L'ami en question était alors sur un lit d'hôpital, soigné pour une méningite contractée sous VIH et dans un niveau de confusion non équivoque selon le parquet, du genre à arracher le coton de sa couche pour le manger, selon le procureur de Draguignan.
Donc, il a quand même pu signer.
Ouais, et puis il est mort quand même en 2023. Hein. Alors, en 2015, après un appel d'offres comptant parmi les deux finalistes, un couple d'amis, Lansade, leur signe un contrat de bail pour la gestion d'un restaurant de plage aux marines de Cogolin. Mais la cahute prend feu un an plus tard, avec dans sa caisse une liasse de faux billets. Place Publique découvre alors que cet ami du maire, dont le nom figure sur le bail, n'a pas contracté d'assurance pour sa plage. Grand Prince, Lansade, décide de faire prendre en charge des travaux de reconstruction du restaurant par la commune. Il sera ensuite remboursé par l'assurance. Facture salée 300 000 euros, d'autant que cette proche revend ensuite son bail pour une somme rondelette 500 000 euros. Alors le mari du couple, ami de Lansade, n'est pas en reste, car Place Publique découvre à peu près à la même époque que celui-ci se cache depuis peu derrière la société d'exploitation d'un camping et d'un petit hôtel de vacances situé sur un terrain particulièrement prisé à Cogolin, celui du Yotel. Tout cela s'est fait sans aucun appel d'offres et depuis 2021, l'homme affirme que son bail précaire est en fait un bail commercial et refuse de quitter le terrain. Lansade fait voter en conseil municipal une provision de 1 million d'euros au cas où pour payer l'indemnité d'éviction due à l'occupant récalcitrant avec qui il a déjà fait affaire. reste une histoire de commercialisation douteuse, des droits de place de bateaux au port des marines, confiés un temps à une entreprise de textile. Là encore, Place Publique dénonce la potentielle entourloupe et fait tout capoter. Jusqu'à la dernière affaire, en 2017, un référent d'Anticorps se présente à la Place Publique, à Place Publique comme un crack en droit portuaire et lui réclame l'ensemble des preuves sur Cogolin censé servir un signalement. Mais celui-ci n'arrive jamais. Une fois renseigné sur les dossiers du maire, l'homme a vendu ses services en tant que consultant à Marc Antienne Lansade. Alors bon, pour 2025, Place Publique compte bien continuer son action. L'année dernière, l'association avait alerté la population de Cogolin sur un projet du maire de supprimer le stade de la ville pour satisfaire son appétit de béton. C'est bien, Cogolin.
Bétonisation, balkanisation, bétonisation.
C'est ça, oui.
Balkanisation, bétonisation. Ça rime. C'est pas le pain qui dénonçait la République, les Républiques.
La République, oui, non, mais tu sais, c'était même propre était autre aussi.
Oui, même propre, mais on va voir qu'il met des gammes pour faire les affaires financières.
C'était le manipulité des fascistes italiens.
Oui, oui, enfin, les mêmes propres parce qu'il y a des gammes
oui,
voilà. Pour tâcher les tasses de sang et de fric. Voilà, on va parler des plus anciens condamnés politiques en France. Georges Ebrahim Abdallah voit l'examen de sa demande de libération conditionnelle par la justice reportée au 19 juin. Après 4 décennies derrière les barreaux, la Cour d'appel de Paris a reporté sa décision sur la libération du militant pro-palestinien Georges Ebrahim Abdallah, condamné pour complicité d'assassinat de diplomates américains et israéliens en France, ajournant ainsi le 19 juin l'examen de la demande de sa libération conditionnelle de la terme d'application des peines, a estimé qu'en état, il n'est pas possible d'y faire droit. Elle a jugé nécessaire qu'il s'acquitte à raison de ses facultés contributives des dommages et intérêts qu'il doit verser aux parties civiles. Pour son avocat Jean-Louis Chalassé, c'est une mesquinerie juridique. Et c'est moment, voire même une torture morale. Ils admettent, mais ils ne veulent encore une fois céder aux États-Unis, a-t-il poursuivi. Or, il a toujours dit, et moi avec, que jamais il n'indemnisera les États-Unis qui envoient des bombes sur les enfants palestiniens et libanais. C'est clair, c'est net et c'est précis. Alors, il faut savoir que Georges Ebrahim Abdallah a été arrêté en 1984 à Lyon, fondateur des forces armées révolutionnaires libanaises, et il avait été condamné en prison à perpétuité en 1987 pour sa complicité dans l'assassinat de l'attaché militaire américain Charles Rey à Paris en janvier 1982, puis de celui Yaakov Berdimentov, un diplomate israélien, en avril de la même année. Il est libérable depuis 25 ans.
Oui, il savait quand même 40 ans qu'il est 11 ans.
Voilà. Le 15 novembre, d'application des peines terroristes lui avait donné une lueur d'espoir en ordonnant sa remise en liberté avec expulsion immédiate au Liban, prêt à l'accueillir. Il représente surtout aujourd'hui le symbole d'un homme maintenu en détention depuis désormais plus de 40 ans, soit une période devenue disproportionnée au regard du fait commis et de sa dangerosité actuelle. C'est vrai que Georges Ebrahim Abdallah ne peut pas être dangereux à l'heure actuelle.
Bah, il commence à être un peu vieux. Hein.
Voilà. Ce qui avait expliqué le tribunal d'application des peines antiterroristes. Mais le parquet national antiterroriste n'avait pas été du même avis et a fait appel, suspendant aussitôt la décision. Le parquet national antiterroriste avait justifié son refus en expliquant que Georges Ebrahim Abdallah n'avait pas évolué, que ses convictions étaient restées intactes et qu'il n'a jamais accepté d'indemniser les parties civiles et il n'a toujours nié d'être lié aux assassinats des deux diplomates à Paris en 82. Sa défense voit derrière la main des États-Unis, partie civile au procès en 87, le gouvernement américain a depuis systématiquement combattu sa remise en liberté. Alors, il faut savoir que la préfecture de police a interdit des manifestations de soutien en région parisienne, estimant qu'elle pourrait troubler l'ordre public. Mmh. Et à Toulouse, par contre, il y a eu une manifestation, parce qu'il faut savoir qu'Ebrahim Abdallah est incarcéré à la prison de Lannemezan, près de Toulouse. Et 300 personnes ont manifesté pour réclamer sa libération de celui qui compte parmi les plus anciens détenus du pays en matière de crimes politiques.
D'accord, c'est pas mal. Alors, bon, peut-être qu'on va passer maintenant à la chronique d'Olivier Morel.
Oui,
Sur la chronique américaine, et qui va nous parler du roi.
Oui, même très inquiet d'ailleurs, parce qu'il a dit que dans le monde universitaire, il commence à avoir une mainmise de l'État, des pressions de plus en plus fortes dans les universités. Le roi est nu, c'est le titre de la chronique du samedi 22 février, qui sera rediffusée le mercredi 26 février de 12h à 13h. Parmi les premiers signes de dissension qui apparaissent depuis quelques jours au sujet de la présidence de Donald Trump, il y a la déclaration de 1091 universitaires spécialistes du pouvoir et des histoires des États-Unis, des chercheurs en sciences politiques, marquant leur inquiétude quant aux menaces que les décisions du premier mois de la nouvelle présidence font peser sur le régime politique américain hérité de la lutte américaine pour l'indépendance. Aux États-Unis, on ne parle donc presque plus de crise constitutionnelle comme il y avait encore quelques jours, mais bien d'un risque plus grave encore. Et c'est le mot de monarchie qui fait surface. Donald Trump lui-même n'ayant pas hésité à s'auto-qualifier de roi dans un poste sur un réseau social. Ce qui est étonnant dans un pays qui est précisément construit historiquement contre la monarchie britannique, ce qu'il avait dit, expliqué la semaine dernière.
C'est, ça, oui.
C'est ce que propose l'universitaire franco-américain Olivier Morel dans sa chronique hebdomadaire qui est diffusée aujourd'hui et rediffusée mercredi. Pour baptiser ce fameuse chronique Les faits et gestes du roi Donald Ier, un pays de l'Utrompé.
C'est ça. Bon,
on va écouter donc voilà, la chronique de Olivier Morel sur Donald Ier, roi de l'Utrompé.
The Return of the King, le retour du roi. C'est l'entrée sur X, sur la plateforme dont il est propriétaire, que Elon Musk a proposé au jour de l'inauguration officielle de l'investiture de Donald Trump le 20 janvier 2025, il y a tout juste un mois, il y a un mois aujourd'hui. The Return of the King, le retour du roi, c'est le thème de la chronique cette semaine. Le mot est lâché, le roi. Alors avant de revenir à cette notion du retour du roi ou de la possible monarchie, et là on parlerait d'une monarchie américaine, ce qui ne manque pas de sel, puisque au fondement de la déclaration d'indépendance des États-Unis, il y avait la volonté de se débarrasser de l'autorité du roi, d'un autre roi, c'est-à-dire le roi d'Angleterre. N'oublions jamais que les États-Unis se sont formés à partir d'une colonie anglaise et qui était dominée par la monarchie britannique, par le Royaume-Uni. Et donc avant d'en revenir à ça, il s'est passé cette semaine quelque chose qui est un des signes d'une possible dissension à l'intérieur de la société américaine au sujet de la transition qui s'opère autour de l'installation de Donald Trump à la Maison-Blanche il y a un mois tout juste. On a assisté ainsi à quelques manifestations lundi de cette semaine, il y a donc quelques jours, il y a 4 jours, qui étaient lundi le jour des présidents, donc c'est un jour un peu férié, en tout cas beaucoup d'administrations ne travaillent pas et certaines institutions publiques comme les écoles ne travaillent pas ce jour-là. C'est le jour des présidents, President's Day, et certains militants et militantes ont manifesté ce jour-là sur le thème « Not my President's Day », ce n'est pas le jour de mon président. Donc il y a une certaine dissension qui commence à paraître et je vais en retenir une qui touche un milieu professionnel qui est particulièrement concerné par ce qui est en train d'arriver. Ce sont les spécialistes de sciences politiques, c'est-à-dire que les gens qui étudient les relations de pouvoir et qui étudient notamment la Constitution, le droit, les fondements démocratiques des États-Unis et bien sûr de toutes sortes d'autres contextes politiques et d'autres pays. Et donc les politistes ou les politologues, en ce 20 février, à ce jour, à midi, eh bien, il y avait à travers les États-Unis 1091 universitaires, chercheurs en sciences politiques, ont publié un document dans lequel il est question, évidemment, de sonner l'alarme au sujet, je cite, de l'attaque que l'administration Trump est en train d'engager sur ce qu'on appelle les freins et contrepoids dans la théorie politique anglo-saxonne, les checks and balances. En gros, c'est la pierre angulaire de la Constitution américaine et de la Déclaration d'indépendance qui, dans la philosophie des fondateurs de la Constitution américaine, de l'indépendance américaine, donc on parle de fondateurs, bien sûr, c'est George Washington ou Alexander Hamilton, et qui avait cette idée tirée des idées des Lumières de John Locke et de Montesquieu, notamment d'une séparation des pouvoirs dans lesquelles les différentes branches du pouvoir, le législatif, l'exécutif, et le judiciaire serait dans un jeu de contrepoids à contrebalancer eh bien, les ambitions notamment qui seraient ceux du pouvoir exécutif, c'est-à-dire d'un président. Encore une fois, l'obsession des constituants, c'est d'éviter une nouvelle monarchie, la reconstitution d'une monarchie. George Washington, d'ailleurs, avait non seulement la peur du retour d'un roi, mais il était beaucoup plus précis à ce sujet. Il disait « le pire serait d'avoir un roi élu par le peuple, un roi démocratiquement élu qui aurait la tentation de s'installer, de rester, de demeurer au pouvoir comme roi. » Et George Washington, comme on sait, a instauré une tradition, une coutume qui est restée c'est de ne pas être élu plus de deux fois. Après son deuxième mandat, il a quitté le pouvoir pour montrer l'exemple. Donc les politistes, les politologues sonnent l'alarme et publient un texte ce 20 février 2025 où ils rappellent que la pierre angulaire de la Constitution, ce sont les freins et contrepoids. Et ils citent 6 points sur lesquels la nouvelle présidence des États-Unis, la présidence de Trump, offre des attaques contre cette tradition qui est, encore une fois, cœur de la Constitution des États-Unis. Et ce n'est pas seulement la Constitution des États-Unis au sens du texte de la Constitution, de cette loi fondamentale qui est la loi des lois qui régule le fonctionnement des institutions d'un pays, mais c'est aussi ce qui a constitué les États-Unis, qui a constitué le pays dans cette espèce de patriotisme constitutionnel, donc ce patriotisme d'être constitué comme pays constitué par une constitution, eh bien c'est cela que, d'après les politologues, on voit attaquer aujourd'hui. Il cite 6 points, parmi lesquels il y a par exemple le fait de détourner les pouvoirs du Congrès pour modifier l'utilisation, par exemple, des fonds, de l'argent qui est dépensé dans diverses branches du gouvernement. Ça, c'est une violation de la Constitution, disent les politologues. De même, deuxième violation, le fait que des procureurs du ministère de la Justice, donc le ministère public de l'État américain, aient été purement et simplement virés, c'est le mot, hein, fired en anglais, par l'administration Trump. Au même titre que des membres du FBI qui avaient travaillé sur les investigations judiciaires qui concernaient Donald Trump de l'époque où Donald Trump était président des États-Unis, et on va y revenir dans quelques instants. Le troisième point, c'est le cas de 17 inspecteurs généraux donc du gouvernement qui sont en charge de surveiller les fraudes ou les malversations possibles du gouvernement. Donc c'est le gouvernement qui emploie du personnel pour faire en sorte que le gouvernement justement n'est pas corrompu. Donc ce sont des garde-fous. Eh bien 17 d'entre eux ont été virés. Encore une fois, pour les politologues, ceci pose un problème constitutionnel. De même, les politologues soulignent la façon dont, on l'a vu dans les journaux en Europe par exemple, la façon dont le gouvernement américain sous l'autorité de Trump a purement et simplement fermé des agences fédérales sans en passer encore une fois par le Congrès et également licencie purement et simplement des fonctionnaires et menace de le faire aussi pour le ministère de l'Éducation, par exemple, et d'autres branches de l'administration publique américaine. Le cinquième point, c'est celui qui concerne les responsables d'agences qui sont en fait des agences indépendantes en charge de certaines activités gouvernementales. Là aussi, détournement de l'autorité du Parlement américain. Et enfin, le sixième point, c'est le transfert du contrôle de l'autorité fédérale dans des mains privées, puisque Elon Musk, on le sait, a fait le tour des différents ministères, a eu accès aux bases de données et s'est permis, avec une équipe d'informaticiens, de supprimer certaines dépenses, d'observer les bilans comptables des différentes administrations et d'accéder à des documents dont la divulgation doit faire impérativement l'objet d'un contrôle par le Congrès des États-Unis. Alors tout ceci, d'après les politologues, est en violation avec la Constitution. Je vais en revenir maintenant à cette phrase de Elon Musk lorsque, le 20 janvier, il dit « c'est le retour du roi ». En fait, le retour du roi, c'est évidemment quelque chose qui est un phénomène actuellement dans la société américaine, puisqu'il y a cette utilisation du mot « le roi » qui fait référence à la monarchie. Mais il ne faut pas du tout croire que c'est juste une métaphore ou une fantaisie de Elon Musk. En fait, ça fait partie d'une volée de références au roi et à la monarchie aux États-Unis depuis plusieurs mois, avec même des intellectuels d'extrême droite. Il y en a maintenant qui apparaissent au devant de la scène et qui font tranquillement la théorie que, en fait, on n'a peut-être pas autant besoin de la démocratie et que Donald Trump pourrait bien se comparer à une figure de roi. Alors, il s'avère que au cours de la campagne électorale, des t-shirts avaient été imprimés sur lesquels figuraient les deux mots « King Trump », le roi Trump. De même, l'actuel directeur du FBI, Donald Trump, qui a été investi directeur du FBI il y a quelques jours, a écrit un livre pour enfants, et oui, qui portait sur les investigations contre Donald Trump. Le troisième volume du livre était sorti quelques jours avant l'inauguration de Trump et portait ce titre « Le complot contre le roi ». Et le roi, évidemment, ici encore, c'était Donald Trump. Alors, rien de tout ça ne vient de nulle part, puisque une des choses qui a vraiment fait couler de l'encre cette semaine, c'est un tweet qui a été publié par Donald Trump en date du 18 février 2025, il y a quelques heures donc, au cours duquel Trump se targue d'avoir éliminé les droits de péage pour accéder à Manhattan dans la ville de New York, quelque chose qui avait été institué par la mairie de New York il y a quelques semaines. Trump se targue d'être parvenu à signer un ordre qui empêchait la taxation des véhicules qui entrent dans le cœur de la ville de New York. Et ce qui est très important ici, que je voudrais souligner, c'est que Donald Trump s'est donc fendu d'un post sur son réseau social où il dit « Manhattan, all of New York City is saved ». Donc Manhattan, la ville de New York est sauvée. Et il ajoute en lettres capitales d'imprimerie à la Donald Trump, donc « Long live the king ». Vive le roi. Fin de citation. Ça, c'est le 18 février. Donald Trump, le 15 février, donc il y a quelques jours encore, avait aussi posté sur son réseau social la phrase suivante: « He who saves his country does not violate the law. » Celui qui sauve son pays ne viole pas, n'est pas en infraction avec la loi. Ceci pour expliquer que ces références au roi, à la monarchie, ne sont pas du tout le résultat d'une métaphore, fût-elle malheureuse ou malencontreuse, mais au contraire une culture, une sorte de nouvelle tendance à la tête de l'État américain dans laquelle on est en train de normaliser ou de banaliser le fait que Donald Trump pourrait être un roi. Alors, ceci ne vient pas de nulle part. En fait, l'une des origines de cette tendance, de cette nouvelle culture qui apparaît, où des intellectuels, des gens très haut placés dans l'administration de la nouvelle administration de Donald Trump, mais également des intellectuels qui influencent beaucoup Donald Trump et son équipe, sans parler de Donald Trump lui-même, eh bien cette référence à la monarchie, à la royauté, au roi, on sait que Donald Trump adore les dorures, on sait qu'il adore les défilés militaires, on sait qu'il adore les démonstrations spectaculaire de l'autorité, mais là on a aussi une référence qui en fait est en lien direct avec quelque chose qui s'est passé le 1er juillet 2024. Que s'est-il passé le 1er juillet 2024 ? Eh bien, il y a une décision de la Cour suprême qui est rendue ce jour-là et qui porte sur la possibilité ou pas que les tribunaux poursuivent des présidents. Bien sûr, là, il s'agit de Donald Trump, parce que c'est le cas de Donald Trump qui a déclenché cette décision de la Cour suprême. Et la question, c'était, est-ce que un président des États-Unis, un président qui n'est plus président, peut être poursuivi pour des faits ayant été commis à l'époque où cette personne était à la Maison-Blanche, officiellement président des États-Unis. Alors, c'est très important cette histoire parce que la raison pour laquelle la Cour suprême est saisie, la raison pour laquelle on lui demande son avis, c'est que, en vérité, Trump est accusé d'avoir fait une tentative de coup d'État le 6 janvier. Alors, beaucoup ont été condamnés pour ces faits, pour les faits d'invasion du Parlement américain, le Capitol Building, le Capitole, le 6 janvier 2021. Et 1600 personnes ont été mises en prison, ont été jugées. La question, c'était, est-ce qu'on peut demander à Donald Trump de se présenter à la barre et de répondre aux questions du jury pour s'assurer de sa culpabilité ou de son innocence. La Cour suprême est consultée parce que, évidemment, lorsque le 6 janvier 2021 a eu lieu, Donald Trump était président et donc il était protégé par l'immunité présidentielle. La Cour suprême décide que Donald Trump, on s'en souvient, ne peut pas être poursuivi. Et alors ça va déclencher évidemment une vaste polémique qui commence par les membres de la Cour suprême. Eux-mêmes donc, sont des juges qui sont nommés à vie par l'exécutif américain, par le président des États-Unis. Et on sait que la Cour suprême est favorable aux républicains depuis quelques années, depuis notamment la présidence Trump de 2017-2020. Donc la Cour suprême a 6 juges contre 3, va décider que le président des États-Unis ne peut pas être poursuivi pour des faits ayant été commis durant sa présidence. Et donc, il y a une immunité présidentielle qui prévaut, et même au-delà de la période présidentielle officielle. Alors, ce que je voudrais souligner ici, c'est qu'il y a évidemment un lien avec cette notion d'utilisation de la métaphore de la royauté et Trump lui-même se disant le roi dans un tweet le 18 février. Il y a un lien entre cette tendance monarchique qu'on observe et la manière dont la Cour suprême a décidé ce jour-là. Et il y a une juge de la Cour suprême, alors une des trois juges, une des trois personnes qui ont émis un avis défavorable à ce que les présidents soient complètement immunisés contre toute poursuite liée à la période où ils étaient en exercice, c'est la juge Sotomayor. Et je vais citer la juge Sotomayor parce que dans son avis, où encore une fois elle exprime un dissensus vis-à-vis du reste de la Cour suprême en défendant le fait qu'il n'y a pas d'immunité absolue du président et que donc un président peut aussi être poursuivi comme un citoyen ou une citoyenne comme les autres, elle indique ceci, et je cite, « Un ordre donné par un corps d'élite de l'armée pour tuer un opposant politique ? Immunité. Organisation d'un coup d'État pour rester au pouvoir ? Immunité. Réception de pots de vin en échange de pardon présidentiel ? Immunité, immunité, immunité. » Voilà ce que la Cour suprême fait, selon la juge Sotomayor, si elle dit que le président des États-Unis est protégé de toute poursuite judiciaire en lien avec son activité à l'époque où il était président. Elle ajoute aussi, je cite, « Dans tous les usages politiques du pouvoir, dans tous les usages possibles du pouvoir officiel, un président est maintenant un roi au-dessus des lois. » Je répète, un président est maintenant un roi au-dessus des lois. C'est écrit noir sur blanc dans la décision de la Cour suprême du 1er juillet 2024. Et en vertu de cette décision, votée à la majorité, la Cour suprême permet à Trump de considérer qu'il est immunisé contre toutes les poursuites qui pourraient être faites contre lui au sujet de sa participation à la tentative de coup d'État le 6 janvier. C'est la juge Sotomayor qui utilise le mot de roi. Alors évidemment, la Cour suprême prend aussi cette décision, non pas seulement par rapport à Donald Trump, mais parce que jamais vraiment la Cour suprême n'avait eu à faire face à cette question, et que le phénomène qui est en jeu là, c'est par exemple le fait de savoir si un groupe à l'intérieur de la société américaine peut porter plainte contre un président comme George W. Bush, qui a mis en place des centres comme la prison de Guantanamo, dont la légalité du point de vue du droit international avait été contestée. Et donc, à partir de ce moment-là, est-ce qu'il serait possible, puisqu'il n'y a plus d'immunité, n'est-ce pas, est-ce qu'il serait possible qu'un président, un ancien président des États-Unis, soit jugé aux États-Unis pour violation du droit des prisonniers, par exemple? Ça, c'était une question qui, bien sûr, hantait la Cour suprême. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas uniquement de Donald Trump, il s'agissait aussi de tous les présidents américains ayant été en exercice dans le passé, incluant donc George Bush ou Barack Obama et d'autres présidents vivants. Ça impliquait bien sûr Donald Trump et d'autres présidents. Et donc la Cour suprême des États-Unis, qui est l'interprète de la Constitution des États-Unis, a considéré que non, les présidents ne sont pas passibles de poursuites judiciaires. Alors, je voudrais terminer avec ceci, c'est le fait que, en fait, nous sommes aujourd'hui aux États-Unis dans une situation qui sont à l'origine de la peur ou de l'anxiété montrée par les politologues lorsqu'ils parlent de la chute d'un système qui est au cœur de la Constitution, c'est la philosophie des freins et des contrepoids, donc l'équilibre entre les différentes branches du pouvoir pour freiner les ambitions notamment du pouvoir exécutif et d'un président qui, comme le disait George Washington, ne pourra pas, ne peut pas devenir roi, redevenir roi ou se prétendre tel en vertu même d'une élection. Il est un correspondant du New York Times qui a été correspondant pendant de très longues années en Chine, qui le 15 février 2025, il y a quelques jours, publié dans le New York Times une réflexion en quatre points sur ce qu'il a observé dans des pays autoritaires et sur les quatre facteurs, selon lui, qui montrent qu'on a une situation de basculement dans l'autoritarisme. Et alors, son point de comparaison, c'était notamment la Chine. Alors, il isole quatre points. Le premier, c'est de dire que, précisément, sur ce sujet des freins et des contrepoids, eh bien, il y a un conseil constitutionnel, c'est-à-dire un gardien de la Constitution, un gardien ultime de la Constitution et des juges qui donnent un blanc-seing au pouvoir exécutif et qui, en quelque sorte, valide ou ignore les entraves au principe des freins et des contrepoids que contient la Constitution. Ça, c'est un premier problème, dit Nicholas Kristof, qui compare les États-Unis actuels avec certains pouvoirs autoritaires, dont la Chine, qu'il a pu observer. Le deuxième point, c'est quelque chose que les politologues américains, les 1091 politologues américains ont aussi souligné, c'est-à-dire la tentation par le pouvoir exécutif de détruire ce qu'on appelle les pouvoirs intermédiaires ou les arbitres indépendants et les autres et autres institutions d'une société civile qui sont des régulateurs des abus du pouvoir exécutif. En particulier, par exemple, les journalistes, les journaux, la télévision, les news, qui ont la tentation de rapporter ce qui se passe sans égard pour le pouvoir de ceux qui sont rapportés dans les journaux. Mais c'est aussi une institution comme la Banque centrale qui a le pouvoir de définir les taux d'intérêt sans en passer par le pouvoir exécutif. Ça agace beaucoup Donald Trump actuellement que les taux d'intérêt restent élevés parce que ça ne favorise pas le business et qu'il a vraiment envie d'intervenir sur ce sujet, de contrôler la Banque centrale. Également, un pouvoir intermédiaire, ce sont les universités, et les universités avec des universitaires comme les politologues qui se permettent de rappeler l'histoire, de rappeler le droit, de rappeler les fondements du droit et de dire ce que nous observons actuellement est une entrave vis-à-vis des principes fondamentaux de la démocratie américaine. Et puis il y a aussi les agences statistiques. Or, qu'a-t-on observé durant les dernières semaines? On a observé des attaques contre les journalistes, des attaques contre les médias. L'administration fédérale des communications, qui est donc contrôlée par l'administration Trump maintenant, a reçu des ordres d'investiguer, de faire des investigations sur la chaîne publique PBS, sur la chaîne de radio publique NPR, sur la chaîne ABC, NBC, CBS et d'autres. Les reporters de l'Associated Press, donc un peu l'équivalent de l'agence France Presse aux États-Unis, n'ont plus le droit d'entrer dans la Maison-Blanche pour assister aux conférences de presse parce qu'ils n'utilisent pas le vocabulaire que M. Trump a imposé sur l'ancien golfe du Mexique, qu'on appelle maintenant le golfe des Américains. Ça, c'est le deuxième problème souligné par Nicholas Kristof, qui est observateur des régimes autoritaires où il a vécu pendant de longues années comme reporter. Et puis, il y a un troisième facteur. Alors, un troisième facteur sur lequel Nicholas Kristof met un bémol, c'est qu'il a observé que dans les pays autoritaires, il y a des agents du pouvoir exécutif qui sont utilisés comme professionnels privés chargés d'intimider ou de faire tomber des opposants. Alors, on n'a pas vu ça aux États-Unis pour l'instant. Mais on a quand même vu des signes inquiétants du fait que M. Trump ne s'est pas caché, n'a pas caché vouloir poursuivre certains partisans ou certains opposants politiques qui lui ont causé du tort. Il a également supprimé les protections policières d'agents du pouvoir fédéral qui avaient été en charge, par exemple, de la mise en place des régulations au moment où il y avait la pandémie de Covid-19. Ces gens ont été menacés de mort par les partisans de M. Trump et par d'autres. Ils n'ont plus officiellement de protection policière alors qu'ils étaient des fonctionnaires du gouvernement. Puis le quatrième aspect, c'est ce que nous évoquions la semaine dernière, c'est-à-dire cette espèce de blizzard de confusion, comme le dit Nicholas Kristof, l'idée de « flood the zone », c'est-à-dire de publier des décrets de plus en plus ambigus, absurdes et aussi outrageants, plus outrageants les uns que les autres, et donc de saturer l'espace médiatique pour créer un état de confusion générale. Alors je voudrais terminer cette séquence aujourd'hui en rappelant qu'il est en fait une génération d'esprits, de grands esprits, de penseurs, d'écrivains, de philosophes, d'érudits, qui au milieu du XVIe siècle, donc en pleine Renaissance et plus précisément en pleine guerre de religion, ont produit des textes déterminants dans l'histoire politique à l'époque de la monarchie absolue française et parmi lesquels, donc dans ces textes, nous avons des phrases en vérité très utile pour la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Je voudrais terminer donc en citant deux de ces philosophes. L'un, c'est Philippe Duplessis Mornay, qui en 1579 va publier un pamphlet qui va avoir beaucoup de succès au XVIe siècle, qui s'appelle « Vindiciae contra tyrannos » en latin. La vindicte contre les tyrans. Duplessis Mornay écrit « Pour ce qui est des tyrans, laissez-les dire et faire ce qui leur plaît. C'est le dernier de mes soucis. Moi, ce qui me concerne, ce n'est pas eux, c'est contre eux que j'écris. » Fin de citation. L'écriture de Duplessis Mornay contre les tyrans. Je ne peux pas résister à l'idée de terminer en citant le grand Michel de Montaigne, qui, dans la dernière page du dernier essai des essais, publié en 1588, écrit cette phrase, je cite, « Et sur le trône le plus élevé du monde, nous ne sommes encore assis que sur notre cul, en français, dans le texte. » Voilà, c'est la chronique du 20 février 2025 qui se termine par cette phrase sarcastique et satirique un peu de Montaigne, qui nous rappelle que, au fond, le roi est nu.
Galère. Oui, ben voilà, toi, tu es assis sur ton trône, Jacques.
Oui, mais comme toi, tu es très cher.
Voilà, donc. Bon, mais écoute, c'est un peu angoissant quand même, hein, un peuple, un État, un Trump.
Oui, non, c'est sûr, mais enfin, il semblerait que quand même, il y ait quelques signes qui montrent que bah, les Américains commencent à se dire, mais est-ce qu'on a voté pour le bon président ?
Des signes ou des micro-signes ?
Quand même des signes.
Moi, je suis plutôt pessimiste.
Il y a quand même 63% des Américains qui pensent que Trump, question mentale, c'est pas trop ça.
Oui, Marc, majorité d'Allemagne disait aussi pareil pour Hitler, mais il pouvait pas s'exprimer.
Oui, enfin bon, écoute.
Bon, allez, c'est quoi? C'est Mississippi Burning?
Non, c'est
un film sur la ségrégation.
Non, on va faire un peu de
Mississippi,
musique, un peu,
oui.
Qui n'est pas forcément politique. Hein,
bon, oui, le Mississippi qui se jette sur le golfe de Louisiane.
Oui, c'est ça. Bah, donc,
autant de baptiser le golfe du Mexique, le golfe de Louisiane.
Aujourd'hui, c'est la reine du Mississippi.
D'accord.
Par le groupe Mountain, je suppose que tu connais, Eric.
Ben, tu as les sirènes du Mississippi, tu as Mississippi Burning,
tu les
sirènes de films.
Tu connais pas Mississippi Queen, et voilà.
Non, je connais pas. Bah, attends, on parle de roi et maintenant tu parles de queen.
C'est ça, c'est de la même chanson. Dans la rubrique, c'est la même chanson. C'est la même chanson. Donc aujourd'hui, dans C'est la même chanson, Mississippi Queen, le groupe qui est à l'origine du morceau, c'est Mountain. Mountain est originaire de Long Island, dans l'état de New York. Il se forme en 1969 autour de Lefty West, l'imposant par la taille et le poids ancien guitariste de The Vagrants et de Félix Pappalardi, bassiste, chanteur et également producteur, qui a travaillé avec les Cream. Donc tu sais qui c'est les Cream, hein?
Les Cream?
Non, Eric Clapton, Jack
Clapton,
Bruce,
oui,
Ginger Baker. Donc sur l'album Disraeli Jazz. Les deux musiciens se retrouvent à l'occasion de l'album solo de West intitulé Mountain et décident avec Andy Smart à la batterie et Steve Nike au clavier de poursuivre l'aventure sous ce nom. Après avoir participé au festival de Woodstock, le groupe que le batteur Corgi Lang a rejoint sort l'album Climbing en 1970. Sur cet album, il y a le titre le plus connu du groupe, Mississippi Queen. Le groupe poursuit son ascension l'année suivante avec l'album Nantucket Sled Ride et la chanson du même nom qui reste l'une de leurs compositions les plus célèbres. En 1972, Mountain sort Flower of Evil ainsi que Mountain Live, The Road Goes Ever On. Capables du meilleur comme des pires excès, les musiciens se séparent un temps en 1972 malgré la ferveur populaire dont ils sont l'objet aux USA en raison notamment des troubles auditifs de Pappalardi provoqués par le volume excessif des concerts que donne le groupe comme par exemple un groupe comme Grand Funk Railroad et aussi des problèmes d'égout entre ses membres qui se lancent dans des improvisations interminables à la Cream justement avec lequel ils présentent une parenté indéniable. Logiquement, Lefty West et Corgi Lang s'associent ensuite au bassiste Jack Bruce de Cream pour fonder le trio West, Bruce et Lang, le temps de deux albums studio et d'un live. En 1983, Félix Pappalardi, qui se consacre alors principalement à la production, est abattu lors d'une dispute par son épouse Gail Collins, rendant définitivement impossible, c'est sûr, la reformation de Mountain autour de ses deux piliers historiques. Quant à Lefty West, il nous a quittés en décembre 2020. N'empêche que c'était quand même un très bon guitariste, l'ami Lefty West. Et donc, on va en avoir la preuve avec Mississippi Queen tout de suite. Précision, c'est aussi Lacey West qui chante, et bien sûr ce Mississippi Queen. Deuxième version, la version de Bachman Turner Overdrive. Bachman Turner Overdrive, abrégé BTO, est un groupe canadien de rock originaire de Winnipeg au Manitoba. Il se forme en 1973 et il a comme précurseur Brave Belt et les Guessou. Le groupe est surtout connu pour des succès comme Taking Care of Business, Roll On Down the Highway, You Ain't Seen Nothing Yet et encore Blue Cola. Les voici donc avec leur version de Mississippi Queen. Bachman Turner Overdrive.
Stop it!
Voilà, c'était la version live de Bachman Turner Override de Mississippi Queen.
Merci, merci Jacques, bravo, Jacques, bravo, bravo. On voit les félicitations, bravo. Hein.
Ah ouais, pourquoi bravo?
On voit les applaudissements.
Hein. C'est, mais merci pour moi. Alors, la troisième et dernière version, c'est une version métal industriel américain avec le groupe Ministry, originaire de Chicago. Et leur musique est donc principalement une fusion de métal et de musique industrielle avec des influences punk. Et ce groupe est considéré comme le premier groupe de métal industriel. Donc, c'est vrai que ça va dégager. Ministry, Mississippi Queen. This one's called Mississippi Queen. Ah là là, une version encore plus violente que les deux versions précédentes, et bien sûr que la version originale. Mmh. Enfin, c'est normal, c'est Ministry.
Oui, bon, mais elle va partir du Mississippi, elle va rester sur les États-Unis, encore Trump, du Trump, toujours
Trump,
du Trump.
Encore Trump,
c'est la même chanson.
C'est vrai, mais ben, c'est vrai qu'il nous sature d'informations, et peut-être que nous, on va saturer aussi d'informations.
Oui, mais enfin, quand Trump sème l'effroi parmi les chercheurs, de fois, c'est les chercheurs qui font. Ouais. Alors, erreur 404, tu sais ça, tu connais ça?
Oui, je connais, c'est sur Internet. Ouais.
Voilà. Voici ce que l'internaute découvre quand il arrive sur la page consacrée au changement climatique de la Maison-Blanche. Sur le site de l'Agence de protection de l'environnement, EPA, la partie sur le changement climatique n'est plus accessible sur la page d'accueil, ni dans les onglets sur les sujets environnementaux. Les subventions gelées, rapports sur la nature des centurés, coupes budgétaires. Et oui, nous entrons dans un âge d'or de l'ignorance, prévient Robert Proctor, professeur à l'Université de Stanford, tandis que la climatologue Valérie Masson-Delmotte y voit de l'obscurantisme. Pour cette administration, dit-elle, les faits scientifiques sont dangereux, il faut les taire. C'est l'héritage des Lumières qui est menacé passé, c'est sans précédent dans un pays démocratique en dehors de périodes fascistes. Et la National Science Foundation, une agence fédérale indépendante et l'un des principaux bailleurs de fonds de la recherche universitaire académique, s'est retrouvée en première ligne quand le gouvernement a décidé de suspendre toute subvention fédérale. Son personnel passe en revue tous les projets de recherche pour vérifier que ces derniers sont conformes à différents décrets présidentiels, notamment celui qui met fin aux politiques de diversité, d'équité et d'inclusion. Et l'agence de protection de l'environnement fait aussi les frais de cette purge. Son nouveau patron, Liz Elden, a clairement énoncé sa volonté de rationaliser cette structure. Il attend annuler 20 milliards de dollars de subventions pour les projets liés au climat.
D'accord.
Les 160 employés de l'EPA travaillant pour des programmes de diversité ou de justice environnementale ont été placés en congé administratif. Alors, il faut savoir que le projet 2025, c'était le projet du candidat Trump.
Oui, enfin, c'était un projet, on va dire, plus ou moins caché, puisqu'il s'en est quand même distancié pendant sa campagne électorale. Un projet, disons, que fomenté par des milliardaires ultra-conservateurs et qu'en fait, Trump est en train de mettre en
place. Voilà. D'inspiration ultra-conservatrice qui a servi de feuille de route à la campagne de Trump, appelée à démanteler cette agence et à privatiser certaines de ses branches, comme par exemple l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique. Et un ancien de la NOAA est très inquiet face à des attaques qui pourraient nuire à la vie des Américains, au commerce et à l'industrie. Et il décrit un climat de peur au sein de l'Agence d'observation océanique et atmosphérique. Pour les observateurs, la casse est pire qu'en 2017 lors du premier mandat républicain. Cela décimerait la science aux États-Unis et nuirait au progrès scientifique au niveau mondial. Raison du leadership américain en matière, prévient un climatologue Michael Mann de l'Université d'État de Pennsylvanie. Si l'administration Trump réoriente la NASA vers Mars et affaiblit la NOAA, deux agences de renommée mondiale, les implications seront dramatiques pour le suivi international du climat et de la météo. De quoi amoindrir la compétition du public, mais aussi de menacer la santé et la sécurité, rajoute Rachel Hillu, en supprimant des informations factuelles et sur les catastrophes. Voilà la science sous la botte de Trump.
Tu sais que certains commentateurs parlent maintenant de capitalisme de l'apocalypse. Bon, c'est
rassurant. Oui, mais c'est Dario Moukin qui avait parlé dans leur fond.
Donc, arnaque à la crypto-monnaie, comment Javier Milei, le président argentin, a enfumé ses concitoyens. À l'âge grotesque du capitalisme tardif, l'histoire débute souvent par un tweet. Le 15 février 2025, le président argentin Javier Milei publie sur son compte X, suivi par 3,8 millions d'abonnés, un message depuis supprimé. Ce projet privé est dédié à la stimulation de l'économie argentine et au financement de start-up et de PME. Il joue à sa missive une adresse numérique sur la blockchain Solana qui renvoie vers un crypto-actif baptisé Libra. Le tout assorti d'un message en lettres capitales « Viva la Libertad ». Javier Milei vient de faire la promotion d'un memecoin, un actif numérique purement spéculatif dont le cours va exploser avant de brutalement s'effondrer 24 heures plus tard, effaçant 4,4 milliards de dollars de valorisation d'après les analyses de la lettre d'information financière Cobesi Later. Le tout quelques semaines seulement après que Donald Trump ait réalisé une opération similaire à la veille de son investiture. À la tête d'un pays de 45 millions d'habitants, le président argentin a, consciemment ou non, donné le signal pour un rug pull, une crypto-arnaque financière coordonnée aux allures de blitzkrieg spéculatif. Parmi les victimes, des influenceurs hystériques et stéroïdés, mais aussi des particuliers attirés par les promesses d'une crypto-économie vendant le rêve d'un enrichissement miraculeux par la grâce de quelques opérations algorithmiques. Quelques secondes après le message de Javier Milei, l'activité liée à Libra explose sur le blockchain. La capitalisation de cet actif numérique bondit de façon spectaculaire, plus 2000% en 40 minutes. Un mouvement frénétique de capitaux s'amorce alors entre wallets, des portefeuilles numériques dont l'activité est traçable en ligne. L'un d'entre eux achète plusieurs milliers de tokens quelques secondes après le début du signal avant de revendre sa pile quelques minutes plus tard, empochant plusieurs millions de dollars de gains. D'où vient l'argent ? Des investisseurs appâtés par le bruit qu'ils entendent en ligne autour du dollar Libra. Le tout avalisé par un dirigeant de premier plan. Un chiffre, 87,4 millions de dollars de gains sont réalisés en 3 heures par une poignée d'adresses numériques, rapporte le site Bubble Map qui trace l'activité des blockchains. Feu d'artifice puis débandade. Le cours du dollar Libra chute de 95%, laissant plusieurs milliers de nouveaux entrants exsangues. Le président Milei rétropédale, efface son tweet, mais la chute du dollar Libra se poursuit. Au milieu de la stupéfaction générale, une question émerge. Qui sont les initiateurs de ce « entre guillemets projet privé » auquel il faisait allusion dans le tweet ayant mis le feu aux poudres ? Javier Milei pouvait jusque-là s'enorgueillir d'avoir redressé les comptes du pays au prix d'une saignée massive dans les finances publiques, l'ayant d'abord plongé dans la récession. Mais avec ce scandale, c'est désormais sa responsabilité politique qui est en jeu, sur fond de corruption et de délits financiers à l'échelle internationale. L'opposition de gauche brandit déjà la menace d'une destitution. Ce sont là les deux faces du même coin. Côté pile, le frisson du casino. Côté face, la possible disgrâce.
Oui, alors moi j'ai une épouse mexicaine qui écoute les informations argentines. Mm-hmm. Et selon la média argentine, Milei a tendance à écouter un peu trop sa sœur. Ah, parce que Milei a une sœur qui fait beaucoup l'entremetteuse. Et surtout, il faut passer par elle pour voir Milei, pour faire des contrats. Mm-hmm. Et que c'est elle qui aurait peut-être soufflé l'histoire des bitcoins version argentine.
Ah.
Voilà. Donc,
ceci pour expliquer cela.
Ouais, oui. Milei, c'est un célibataire qui vit tout seul dans son appartement, qui appartenait à ses parents. Enfin, bon, voilà.
D'accord.
Oui. Voilà, bon, enfin, voilà, l'histoire de. Voilà, bon, une petite histoire de famille derrière, de petits gens derrière, d'entourage.
Oui, non, puis aussi, il y a des gens qui se sont mis plein la poche, pendant que d'autres sont complètement ruinés. Enfin,
ah, bon. Oui, c'est pour ça que tu sais pas, tu es venu en Ferrari.
Ah oui, ah, non, non, c'est la Porsche aujourd'hui, excusez-moi.
Ah, d'accord, oui, sa retraite a augmenté d'un coup.
C'est ça, bizarre. Hein.
Ouais.
En France, on aime le bon vin. Et on sait l'apprécier. Coca-Cola. Allez, mon bonhomme, placez votre camelotailleur. En Amérique. En Amérique.
Les consommateurs français apprécient le bon vin. Cette bande-son est extraite d'un film documentaire de Raymond Gauguel, Les Américains en Amérique. Lors de la sortie de ce film de propagande de 12 minutes, réalisé en 1950 pour le compte du Parti communiste français, nous sommes en pleine guerre froide, où s'affrontent le bloc de l'Ouest autour des États-Unis et le bloc de l'Est autour de l'Union soviétique. Le Parti communiste est bien sûr du côté de l'Union soviétique et dénonce l'américanisation de la société française. Si bien que la boisson gazeuse Coca-Cola va être l'objet d'une campagne intense aux alliances paradoxales. Un an plus tôt, en 1949, la firme Coca-Cola a décidé d'envahir le marché français. En représailles, une improbable alliance rouge-rouge se constitue entre les communistes, les lobbies du vin, les industriels du jus de fruits, tous unis pour bouter la boisson américaine ultra-calorique hors des terrasses hexagonales. Créée à Atlanta aux États-Unis en 1885, Coca-Cola était à l'origine une boisson alcoolisée à vocation médicale à base de coca. Son inventeur, un vétéran de la guerre de sécession, John Pemberton, qui a contracté une addiction à la morphine à la suite des traitements des douleurs dues à ses blessures, était à la recherche d'une boisson lui permettant de se désintoxiquer. Cette boisson à usage médical apparaît sous le nom de French Wine Coca. Il est probable que John Pemberton s'est inspiré de la recette du vin Mariani, qui est un mélange de vin de Bordeaux et de feuilles de coca créé par le pharmacien corse Angelo Mariani en 1863. Or, au moment de la sortie de cette boisson, le maire d'Atlanta fait interdire la vente d'alcool pour une période d'essai de 2 ans. Pemberton va par conséquent développer une version sans alcool de sa boisson en la remplaçant par du sirop auquel il ajoute de l'eau gazeuse. La vente du French Wine Coca se poursuivra jusqu'à sa mort en 1886. Un peu avant, l'entreprise est achetée par un homme d'affaires, Asa Greg Kanner, qui va faire prospérer la marque Coca-Cola. Au début des années 1900, Coca-Cola décide de remplacer la cocaïne, devenue produit stupéfiant dangereux pour la santé, par de la caféine. Contrairement à une légende tenace, le Coca-Cola n'est pas arrivé en France avec les soldats américains qui ont débarqué sur les plages de Normandie. En réalité, la première livraison de ce soda est arrivée par bateau à Bordeaux en 1919. Depuis, il n'a jamais quitté le vieux continent, même sous l'occupation allemande. Mais jusqu'en 1949, on ne trouve du Coca-Cola que dans les bars branchés de Saint-Germain-des-Prés, où viennent s'encanailler des touristes américains et des azous comme Bourivian. Et dans Je suis snob, ce dernier chantera.
On se réunit avec les amis tous les vendredis pour faire des snobismes partis. Il y a du coca, on déteste ça, et du camembert qu'on mange à la petite cuillère.
L'offensive pour envahir le marché français débute en 1949. Le gros rouge règne d'une main de maître en France. Dans les traités de médecine, il est recommandé aux travailleurs d'en boire 1 litre de vin par jour. Et dans les écoles, le pinard est servi sur la table des cantines scolaires dès l'école primaire. Ce n'est qu'à partir de 1956 que les boissons alcoolisées seront interdites dans les établissements scolaires, ce qui nous paraît étrange aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'à l'époque, vu l'état du réseau des canalisations, il valait mieux éviter l'eau du robinet pour ne pas attraper des maladies mortelles. L'objectif de Coca-Cola est modeste. L'entreprise américaine ambitionne modestement de n'écouler que 6 litres de soda par Français et par an, contre 130 litres pour le vin ou encore 25 litres pour la bière. En face, une alliance rouge-rouge se met en place. D'un côté, les communistes qui ont quitté le gouvernement en 1947, mais qui encore restent la première force politique du pays avec 25% de députés. Et c'est ainsi que l'humanité invente le terme de Coca-colonisation. Et de l'autre, le lobby du vin, tout puissant, mais qui traverse une mauvaise passe, car à l'époque, en raison de la surproduction, les producteurs n'arrivent pas à écouler leur production et cherchent à tout prix à relancer la consommation. Dans ce contexte, l'arrivée du Coca-Cola est vue comme une menace. Quelques décennies plus tôt, le lobby du vin avait mené une croisade victorieuse contre l'absinthe, qualifiée d'alcool industriel non traditionnel. De leur côté, les communistes voient dans le réseau des vendeurs de Coca-Cola des agents de la CIA. Instantanément, tous les bistrots parisiens affichant des réclames de Coca-Cola sont recouverts de têtes de mort. Le journal communiste L'Émancipateur tonne à la porte au gouvernement du Coca-Cola. La revue Climat s'interroge. Le Coca-Cola est-il un poison ? Pour contre-attaquer, Coca-Cola essaye de glisser de la publicité dans la presse communiste. Mais bien souvent, comme dans Éclaireur de l'Ain, le journal explique par écrit avoir bouté l'envahisseur hors de ses colonnes. Nous avons suffisamment en France assez d'excellentes productions locales pour nous désaltérer jusqu'à plus soif. En France, les VRP de l'entreprise Coca-Cola sont soumis à un dress code impitoyable, surtout lorsqu'ils sont envoyés en mission en terre rouge. Témoignage de l'un d'entre eux. Il y a eu des problèmes avec un extrémiste. Une fois, je faisais des dégustations, l'un d'eux m'a pris ma bouteille et l'a jetée contre le mur. Ça, c'est un représentant de Sud-Ouest qui témoigne. Mais son cas, lui, n'est rien côté ce qu'endurent les représentants envoyés dans l'Est du pays. Voici le témoignage de l'un d'entre eux qui s'était collé à la sortie d'une usine de sidérurgie. On nous a traités de tous les noms, on nous a foutu dehors. Ils nous disaient, le Beaujolais du Texas, on n'en veut pas. Nous, on boit français, on boit du vin. Et quand le médecin de l'usine a accepté d'y installer des distributeurs de Coca-Cola, ils n'ont pas fait long feu. Avec des chariots élévateurs, les ouvriers les ont balancés dans les fonderies. Le New Yorker, journal américain, raconte comment des spectateurs ont vandalisé l'arrivée d'une course cycliste organisée en France. Le speaker venait d'annoncer au micro que Coca-Cola allait remettre un prix spécial aux vainqueurs. Il aura fallu 3 bonnes heures pour déblayer la route pour laisser passer les coureurs. Si ces incidents étaient spectaculaires, ils n'étaient pas forcément représentatifs. Bien souvent, les cafetiers qui ne se roulaient pas sur l'or accueillaient avec plaisir le représentant de Coca-Cola, qui lui laissait un calendrier, un cendrier ou même parfois une table du bistrot. Toutefois, le prince Alexander Makinsky, un russe blanc farouchement du communiste, devenu patron de la filiale française de Coca-Cola, vit de l'angoisse de voir sa maison plastiquée. Ce dernier avait coutume de dire « Le meilleur baromètre du rapport entre les États-Unis et n'importe quel pays, c'est la manière dont Coca-Cola est traité ». Le gouvernement français fait face à un feu roulant de propositions de loi portées par les communistes et les élus des régions viticoles, comme le député maire de Montpellier, le centriste Pierre Boulet, qui pourtant est du même camp que celui du gouvernement. Une nouvelle insulte fait son apparition sur les bancs de l'Assemblée. « Espèce de buveur de Coca-Cola !» lance à la tribune la communiste Jeannette Vermetsch, épouse de Maurice Thorez, le patron du PCF. Si les amendements visant à interdire Coca-Cola en tant que tel échouent à rassembler la majorité, la proposition d'étudier la composition du soda pousse la firme de l'embarras, parce que le secret de la recette constitue le pilier de son marketing. Pas moins de 5 ministères différents sont mobilisés par l'affaire. La contrefaçon américaine ne se fait pas attendre. Une bouteille à la main, James Farley, un ancien ministre de Roosevelt à la tête de Coca-Cola Sport, balance sur la chaîne CBS. Le Coca-Cola n'a pas été néfaste à la santé des soldats américains qui ont libéré la France, les nazis, pour que les députés communistes puissent maintenant siéger au Parlement. À la Maison-Blanche, le président Eisenhower, l'homme qui a signé le contrat d'exclusivité entre la Coca-Cola et l'US Army, déclare que s'attaquer à ce soda, c'est s'attaquer à l'Amérique. Il va jusqu'à lancer une menace directe de représailles douanières sur les vins français. Donc, coup, la plupart des élus français baissent d'un ton. Hasard de calendrier, le Sénat français retoque la proposition de la loi anti-Coca-Cola le 6 juin 1950, anniversaire symbolique, 6 ans jour pour jour après le débarquement. Coca-Cola, de son côté, manœuvre habilement en France en s'alliant avec un grand nom du secteur en déshérence, le groupe Pernod. Il faut savoir que l'entreprise a été créée en 1905 par un Suisse, Henri-Louis Pernod, qui s'était spécialisé dans la production de l'absinthe. Après l'interdiction de l'absinthe en 1917, grâce au lobby du vin, l'entreprise s'était reconvertie dans la production de boissons anisées. Or, en 1941, le gouvernement de Vichy, encouragé entre autres par le lobby du vin, décrète l'interdiction des boissons anisées. Mais en 1951, cette interdiction est levée, d'où le fameux passé. 651. Les deux entreprises baptisent la Société parisienne de boissons gazeuses qui avait besoin de clients, ce qui permet à Coca-Cola de s'implanter plus facilement dans l'espace national. En 1954, l'enquête menée par la justice française sur la toxicité de Coca-Cola se solde par un non-lieu, mais la polémique autour de la boisson gazeuse laisse des traces. À la même époque, une étude établit que seuls 17% des Français apprécient Coca-Cola, quand plus de deux tiers détestent son goût. Un chiffre à la traîne par rapport aux autres pays européens où Coca-Cola a conquis beaucoup plus d'adeptes. À l'heure actuelle, c'est le Mexique qui reste le premier consommateur mondial de Coca-Cola avec une moyenne de 163 litres par personne et par an. Aux États-Unis, la consommation est de 99,5 litres et la France seulement de 27,7 litres. Cependant, les Français sont restés les premiers consommateurs de vin au monde jusqu'en 2021. Depuis, ce sont les États-Unis qui consomment le plus de vin au monde avec, en 2023, 33 millions d'hectolitres bu dans l'année. La France se place deuxième avec 24 millions d'hectolitres bu devant l'Italie qui ne consomme que 21 millions d'hectolitres. Amis, sois fort, bonsoir.
C'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des mois de turbin, c'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec Hildegard, c'est toujours moi qu'on regarde. Je suis snob, foutrement snob. Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon. Chemise d'organdi, chaussures de zébu, cravate d'Italie et méchant complet vermoulu. Un rubis au doigt, deux pieds, moi celui-là, les ongles tout noirs et un très joli petit mouchoir. Je vais au cinéma voir des films suédois et j'entre au bistrot pour boire du whisky à gogo. J'ai pas mal au foie, personne fait plus ça, j'ai un nul sait, c'est moins banal et plus cher, je suis snob. C'est Bat, je m'appelle Patrick, mais on dit Bob. Je fais du cheval tous les matins, car j'adore l'odeur du crottin. Je ne fréquente que des baronnes, au nom comme des trombones. Je suis snob, excessivement snob. Et quand je parle d'amour, c'est tout nu dans la cour. On se réunit avec les amis tous les vendredis pour faire des snobismes parties. Il y a du coca, on déteste ça, et du camembert qu'on mange à la petite cuillère. Mon appartement est vraiment charmant, je me chauffe au diamant, on ne peut rien faire de plus fumant. J'avais la télé, mais ça m'ennuyait, je l'ai retournée. De l'autre côté, c'est passionnant, je suis snob. Ah ah, je suis ravagé par ce microbe. J'ai des accidents en Jaguar, je passe le moineau au plumard. C'est dans les petits détails comme ça que l'on est snob ou pas. Je suis snob, encore plus snob que tout à l'heure. Et quand je serai mort, je veux un sphère de chez Dior.
Salut à toi le Tunisien, salut à toi Bangladesh, salut à toi peuple grec, salut à toi petit indien, salut à toi punk iranien, salut à toi rebelle afghan,
salut à toi le dissident, salut à toi le chien, salut à toi le petit malien, salut à toi le mohican, salut à toi peuple gitan, salut à toi l'éthiopien, salut à toi le tchadien, salut à vous les partisans, salut à toi chaud et allemande, salut à toi le vietnamien, salut à toi le cambodgien, salut à toi le japonais, salut à toi le thaïlandais, salut à toi le laotien, salut à toi le coréen, salut à toi le polonais, salut à toi l'irlandais, salut à toi l'européen, salut à toi le mongolien, salut à toi le hollandais, salut à toi le portugais, salut à toi le mexicain, salut à toi le marocain, salut à toi le libanais, salut à toi le pakistanais, salut à toi le philippin, salut à toi le jamaïcain, salut à toi le guyanais, salut à toi le togolais, salut à toi le guinéen, salut à toi le guadeloupéen, salut à toi le congolais, salut à toi le sénégalais, salut à toi l'afro-cubain, salut à toi le portoricain, salut à toi la haute volta, salut à toi le nigeria, salut à toi le gaboni, salut à toi le vieux ch'ti, salut à toi Che Guevara, salut au comité de soldats, salut à tous les hommes libres, salut à tous les apatrides, salut à toi la vertaga, salut aussi à la panda, salut à toi le punk anarchiste, salut à toi skin communiste, salut à toi le Liberia, salut à toi le Sri Lanka, salut à toi le Sandinis, salut à toi le Légendis, salut le mouvement des jeunes arabes, salut à toi Guatemala, salut le PK du contingent, salut à toi le Chotopan, salut à toi peuple Kanak, salut à toi Tchécoslovaque, salut à tous les dragons, salut à toi qui est que bon, salut à toi jeune malgache, salut à toi le peuple bac, salut à toi qui est au violon, salut à toi les Morocons, salut à toi le Yougoslave, salut à toi le Voyou Slam, salut à toi le Salvador, salut à toi le Molodoy, salut à toi le Chinois, salut à toi le Zaïrois, salut à toi l'Espagnol, salut à toi le Ravachol, salut à toi le Hongrois, salut à toi l'Iroquois, salut aussi à tous les Gosses, les îles maudites jusqu'à l'Écosse, salut à Boudou les Azous, salut à la jeune garde rouge, salut à toi le peuple corse, salut aux filles du Crétien, salut à toi la Vache-Chérie, salut à Lorraine et Arthur, salut à toi peuple nomade, salut à tous les Kamawas, salut à toutes les Vertigones, salut aussi à Youth Rider, salut à toi l'handicapé, salut jeunesse du monde entier. Salut à toi le gros manère, salut à toi.